Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et ce matin, Jacques, vous revenez sur la proposition du groupe de travail des élus de la majorité sur le séparatisme islamique. Il demande la création d'un centre de formation indépendant du type École nationale de la théologie musulmane.
Oui, il s'agit notamment de mettre fin au système des imams détachés qui importent souvent une vision de l'islam trop dépendante de leur pays d'origine, voire fondamentaliste. Dans La Croix, Francis Messner, spécialiste du droit des religions, évoque une structure juridique souple alliant un enseignement civique ainsi qu'en histoire ou sociologie de la religion, dispensée par l'État, et une formation théologique prise en charge par les instances représentatives musulmanes comme le CFCM, le Conseil français du culte musulman, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les instituts catholiques ou pour l'Institut protestant de théologie. Anouar Kbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, rappelle qu'il existe déjà en France 8 instituts de formation des imams rattachés aux grandes fédérations représentatives du culte musulman, plus 2 autres à Clichy et à Rennes dès la rentrée prochaine, sous l'égide de son association, et il plaide pour un véritable statut des imams français. Les 1800 imams qui exercent actuellement en France travaillent soit sous contrat d'animateur culturel, dit-il, soit ils sont bénévoles et reçoivent de petites indemnités des fidèles, ils n'ont même pas de couverture sociale. Concernant l'approche historique du Coran, Jacqueline Chabi vient d'offrir un bel exemple de sa méthode anthropologique dans un livre publié au Seuil sous le titre « On a perdu Adam, la création dans le Coran ». Religion monothéiste, l'islam partage avec les 2 monothéismes qui l'ont précédé de nombreuses thématiques, l'enfer et le paradis par exemple, ainsi que plusieurs figures prophétiques. Mais, souligne l'islamologue, si la création est bien présente dans le Coran, elle s'écarte complètement de l'optique biblique. Sa première occurrence associe en quelques mots un être parfaitement constitué, la guidance qu'il reçoit et le pâturage. Rapportée à son contexte d'expression, elle renvoie à l'homme pastoral de l'Arabie aride, créé immédiatement opérationnel. Il est guidé par son créateur sur la bonne piste, tandis que sortent de terre les pâturages du désert. Et la figure d'Adam est en quelque sorte évacuée. Pas de péché originel, ni de perte de l'Éden. Au contraire, la thématique de la création s'invite d'emblée de manière entièrement positive, comme pour faire contrepoids à l'eschatologie du jugement dernier et du châtiment. La figure d'un homme d'argile, d'abord significativement sans nom avant d'être ensuite reconnu comme Adam, ne sert que de déclencheur à l'entrée en scène du personnage hyper négatif d'Iblis, le Diabolos, Al-Shaytan. On a perdu Adam, mais on a retrouvé Robinson. Jean-Baptiste Bronnet, spécialiste d'Averroès, publie aujourd'hui chez Verdier une nouvelle adaptation du texte mythique du penseur andalou Ibn Tufayl, le vivant fils du vigilant, sous le titre Robinson de Gadix, avec une belle préface de Kamel Daoud. Tous deux en parlent dans les pages idées de l'Obs. Robinson, parce que c'est le conte philosophique d'un enfant débarqué sur une île déserte et qui découvre au fil des ans les lois de l'univers jusqu'à la transcendance divine au seul moyen de sa raison. Et parce qu'il a inspiré Robinson Crusoe après avoir été traduit par Pic de la Mirandole et avoir été le texte arabe le plus lu dans le monde occidental après le Coran et les Mille et Une Nuits. Robinson de Gadix, parce que son auteur, grande figure de l'islam andalou, était originaire de Gadix, dans la province de Grenade. Ibn Tufayl est un néoplatonicien qui tente de concilier Avicenne et Al-Razali en articulant rationalisme et mystique soufi, spéculation et intuition, résume Jean-Baptiste Brenet. Pour lui, en effet, l'intuition ne s'oppose pas à la philosophie, elle en est le couronnement, là où l'on finit par goûter ce que l'on sait. Kamel Daoud dit avoir été particulièrement sensible à l'épisode où Aï, c'est le nom du jeune héros, le vivant, découvre le cadavre de la gazelle qu'il a élevé. Dans son désespoir face au corps inanimé de sa mère, il ne découvre pas seulement la mort, il découvre son intériorité et la transcendance. En disséquant le corps, une pratique de la médecine arabe bien avant la nôtre, pour trouver la raison du mystère insondable, il parvient jusqu'au cœur et comprend que l'âme est un souffle et, je cite le texte, texte que sa mère, celle qui avait eu pour lui de l'attachement, celle qui l'avait allaité, était non pas devant lui cette force morte, ce corps éteint et puant, mais la chose disparue. Et c'est ainsi qu'il en vient à savoir que son cœur avait abrité un maître pour lequel seul il devait avoir de l'amour. Que dit Ibn Tufayl, un lecteur musulman du 21e siècle, demande Kamel Daoud, qu'on peut fonder une éthique de la vie sur l'exemple des règnes de l'être qui vont de la plante à l'astre en passant par l'animal.